Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
La grève du personnel non médecin a déjà causé plusieurs dégâts et elle dure depuis environ 3 mois. Le Premier ministre doit s'y impliquer pour limiter les dégâts. Ce plaidoyer est du député national Ntumba Tshabola, élu de Katanda au Kasai Oriental. La RDC et le Kenya, d'accord pour lutter contre la corruption à travers le continent africain, ce à travers l'APLC côté RDC et EACC pour le Kenya. Un mémorandum d'entente a été signé dans ce sens hier à Kinshasa par les deux parties. Et puis, Côte d'Ivoire, l'ASPAFECO, une association de défense de l'environnement, réclame la mise en place d'un Conseil national de l'environnement et développement durable, requête adressée au Premier ministre. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur de cette organisation, Maître Christian Namuto. Madame, Messieurs, bonjour. La grève du personnel non médecin a trop duré et elle a déjà causé plusieurs dégâts parmi lesquels des pertes en vies humaines. Déclaration du député national Ntumba Tshabola Bintou, l'élu de Katanda au Kasai Oriental, invite le Premier ministre à s'impliquer personnellement et urgemment en vue de limiter les dégâts. Le député national Ntumba Tshabola s'est confié à Alain Rungmushinj.
C'est vrai que le personnel de santé non médecin continue avec le mouvement de grève déclenché il y a plusieurs semaines, environ 90 jours, ce qui fait à peu près 3 mois, et continue à revendiquer leurs droits, notamment le protocole d'accord avec le gouvernement et le lancement des activités de commission interministérielle. Sur ce, nous continuons à plaider la cause des professionnels de santé non médecins en tant que parlementaires et défenseurs des faibles, et nous demandons au gouvernement de répondre aux revendications des personnels de santé non médecins, de la même manière que le gouvernement est en train de répondre aux revendications d'autres fonctionnaires de l'État, notamment de plusieurs ministères, comme ceux de l'EPST et d'autres catégories professionnelles. Nous demandons au gouvernement de répondre aussi positivement aux revendications des professionnels de santé non médecins qui sont en train de manifester ces derniers temps au niveau de l'immeuble du gouvernement. Nous demandons spécialement au Premier ministre ainsi qu'au ministre des Budgets et celui de la Santé de permettre à ce que le protocole d'accord soit signé.
Restons dans le domaine de la santé avec cette bonne nouvelle en provenance de Beni. Deux malades qui étaient soignés au centre de traitement de la maladie à virus Ebola ont été déclarés guéris. Ils ont quitté ce centre hier à la grande satisfaction de l'équipe de Riposte. Il s'agit d'un couple déclaré cas contact dans un premier temps et qui avait accepté d'être soigné après avoir été testé positif. À cette occasion, l'équipe de Riposte invite la population au respect des mesures d'hygiène sanitaire et à se faire vacciner dans la ville de Beni où le nombre des cas contacts serait élevé. Je vous le disais en titre, la RDC et le Kenya décident d'unir leurs efforts pour lutter contre la corruption entre les deux pays au niveau régional et à travers le continent africain. Ils le font à travers deux organismes, Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, qui est une structure de la présidence de la République, et le Kenya est représenté par la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption EACC. Hier, à Kinshasa et devant la ministre de la Justice, les deux organismes ont signé un mémorandum d'entente dans ce sens. D'après Thierry Mboulamoko, coordonnateur de l'APLC, le Kenya dispose de 23 ans d'avance que la RDC dans le domaine de lutte contre la corruption, principalement dans la numérisation, d'où cet échange d'informations et des renseignements ainsi que de renforcement des capacités entre ces deux structures. Thierry Mboulamoko, dans cet extrait choisi par Billy Van Lutumba.
Le mémorandum d'entente que nous avons signé donc aujourd'hui renferme quelques points clés comme l'échange d'informations, de renseignements entre nos deux structures. La corruption n'a pas de frontières. Quelqu'un peut être corrompu à Kinshasa, il peut détourner de l'argent à Kinshasa et loger ses sous à l'étranger. Ceci nécessite une collaboration internationale. Au niveau de l'Afrique, nous collaborons avec des structures, les agences de lutte contre la corruption. Donc on parle de criminalité. Donc ces questions doivent être réglées de manière globale, internationale, régionale et continentale. Ces matières-là figurent dans le mémorandum d'entente. La corruption reste la corruption, que ce soit en RDC, au Kenya, aux États-Unis ou en Europe. Alors pourquoi ne pas apprendre sur ceux qui ont commencé le combat avant? Comment est-ce qu'ils opèrent sur terrain? Au niveau législatif, qu'est-ce qu'ils ont déjà comme instrument? Le mémorandum précise également des échanges beaucoup plus structurels entre nos deux agences. Le Kenya a une certaine avance par rapport au volet numérique. Vous savez que plus nous numérisons, moins il y a des fraudes, moins il y a de la corruption.
Entre-temps, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sensibilise les acteurs publics et privés sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. À travers un atelier de formation organisé hier à Kinshasa, quelques expériences ont été partagées entre acteurs, notamment autour du cadre normatif régional, national et international de cette lutte, l'agent public et l'éthique. Reportage Jeff Ngoy.
Les points chauds de la corruption demeurent, notamment les entreprises publiques, à en croire le professeur Luzolo Bambi, qui expose sur le cadre normatif de la lutte contre la corruption. Il épingle la mauvaise interprétation du code pénal vieux de 80 ans.
Les interprétations posent problème. Donc sur le plan normatif, il faut noter que les juristes congolais, en ce compris aujourd'hui les magistrats, les avocats, les défenseurs judiciaires, les officiers de police judiciaire, appliquent mal la loi sur la corruption parce qu'il y a une confusion due à de nombreuses modifications que ce texte-là a connues.
Quel lien à établir entre les droits de l'homme et la corruption? Mamoussou Mouamba, président de la CNDH, explique.
Droits de l'homme, surtout dans son secteur des droits économiques, sociaux et culturels, est beaucoup plus la corruption. La corruption amène beaucoup de problèmes, surtout dans les sociales de la population. La corruption amène la pauvreté et maintenant, la corruption a traversé toutes les générations des droits de l'homme.
Selon le professeur Luzolo Bambi, l'état de droit contribue considérablement à endiguer la corruption, surtout dans le secteur minier. Dans le cas contraire, seule la justice transitionnelle peut être le seul palliatif.
Dans l'actualité aussi, le groupe de travail Climat Red Plus, GTCR en sigle, se félicite des négociations qui ont abouti au décaissement de 500 millions de dollars dans le cadre du nouveau partenariat CAFI-RDC pour la période 2021-2031. Cependant, le président du comité de pilotage de GTCR souligne que les engagements pris en faveur des projets de protection des forêts du bassin du Congo doivent être respectés. Au cas contraire, la société civile ne va pas hésiter à se désengager du processus. Kabasele l'a dit hier au cours d'un point de presse à Kinshasa. Le président du comité de pilotage du groupe de travail Climat Red Plus explique au micro de Tati Mapoku.
Que ce soit dans le cadre des résultats, que ce soit dans le cadre des réformes, que ce soit dans le cadre programmatique, que les engagements soient respectés. Autrement, la société civile environnementale aura son rôle de faire remarquer ces dysfonctionnements au grand public et peut-être se désengager, parce qu'on ne peut avancer que lorsque chaque partie respecte ses engagements. Nous allons devoir aussi, pour d'autres parties, des mises en œuvre de ce mécanisme, demander en insistant la possibilité de responsabiliser les entités nationales, la possibilité d'accorder une marge de manœuvre décisionnelle dans la mise en œuvre de ce mécanisme avec ses financements. Ici, de manière très claire, nous ne voudrions pas que les porteurs de projets puissent constituer un obstacle aux bienfaits que nous attendons au niveau des communautés locales et peuples autochtones pygmées. On ne peut pas faire la lutte contre le changement climatique sans lutter en même temps contre la pauvreté. On ne peut pas protéger les forêts sans une sécurité foncière accordée aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées.
Par l'enseignement à présent, 26 lauréats bénéficient d'une bourse d'études belge pour la session 2021. La cérémonie de présentation de ces lauréats par l'agence de développement belge Enabel s'est déroulée hier à Kinshasa. Selon l'agence belge, les bourses estimées à 1,5 million d'euros sont octroyées dans le cadre du programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi des bourses, PRECOB en sigle. Explication, Paul Matendo Bayamba.
Il s'agit de deux types de bourses, a indiqué Arlette Masamouna, professeur à l'UPEN et coach de ces boursiers. Les bourses pour les masters et les bourses doctorales. Elle a ajouté que chaque lauréat a présenté les résumés de sa thèse en 180 secondes.
Donc, j'ai travaillé avec eux sur les contenus d'abord de leur recherche, de la présentation qu'ils ont faite en 180 secondes. J'ai travaillé avec eux sur la gestion du stress. J'ai travaillé avec eux sur la performance oratoire.
Nema Mungu, l'une des boursières, parle du sujet de sa thèse.
Une autre thème de recherche porte sur les cancers des femmes, les cancers gynécologiques. D'abord, les cancers du col qui tuent le plus les femmes congolaises et puis les cancers du sein. Or, nous savons qu'il y a des mécanismes de prévention. Notre stratégie, c'est de travailler avec des personnes malades, surtout les personnes qui ont des lésions qui précèdent le cancer, dans le cas du cancer du col. Ces personnes-là vont subir certains examens. Parmi ces examens qu'ils vont faire, on va déterminer celles qui portent les papillomavirus, parce que c'est ça l'agent causal. Ce n'est pas un cancer qui arrive par hasard.
Enabel a ajouté que chaque dernière bourse octroyée se trouve une opportunité de promouvoir et faire avancer la recherche en RDC.
En plus bref, sachez que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire demande aux directeurs généraux des instituts des bâtiments et travaux publics de la RDC de désigner 3 membres de chaque institut, dont 2 enseignants et 1 administratif, afin de participer au séminaire qui se tiendra à Kinshasa du 10 au 13 novembre sur l'appropriation du système licence master doctorat LMD. Dans un communiqué de presse parvenu à Radio Kapi hier, Mwindo Nzangi précise que ce séminaire fait suite aux états généraux de l'enseignement supérieur tenu à Lubumbashi, qui demande entre autres l'instauration du système LMD au sein de tous les établissements. Province du Maniema, les techniciens de développement rural que l'ISDR Kindu forme ne sont pas en mesure d'accompagner les paysans dans leurs activités comme cela devrait être fait, faute de moyens, constat du directeur général de cet établissement dont la vocation est justement d'accompagner les populations et les masses paysannes à assurer leur auto-prise en charge. Le professeur Deogracias Kimenia plaide pour que les autorités mettent à la disposition de son institution des moyens nécessaires pour booster la recherche scientifique. Il a dit lors de la clôture de l'année académique la semaine dernière, le directeur général de l'Institut supérieur de développement rural, ISDR Kindu, s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Ça ne se fait pas sentir parce que tout dépend de la politique nationale. Parce que l'ISDR est là, nous formons les techniciens de développement rural. Ce sont eux qui sont appelés à accompagner ces paysans. Alors, ces paysans, nous les accompagnons dans le cadre de nos sorties rurales et les sorties hebdomadaires. Mais les moyens ne nous permettent pas, nous, d'assurer le développement en termes d'actes concrets au sujet des options que nous organisons. Nous, nous produisons les acteurs, mais les moyens qu'il faut pour que ces acteurs-là contribuent effectivement au développement, nous les attendons de l'État. D'abord, il faut que nous ayons des frais de fonctionnement qu'on n'a pas reçus depuis plusieurs années. Nous avons besoin de frais d'intervention économique. Nous les attendons. Nous connaissons la situation de notre pays qui est frappé par la récession économique internationale. Alors nous, notre rôle se limite à produire des animateurs. Nous les lançons sur le marché de l'emploi et eux font montre de ce dont ils sont capables. Mais nous, on continue à fabriquer jusqu'à ce que l'État nous dise que non, c'est assez suffisant pour fabriquer. Arrêtez là parce que c'est déjà assez.
L'actualité, c'est aussi le 2e anniversaire de la radio Kapi antenne de Butembo. Il a été célébré hier, 4 novembre. Des habitants de cette ville du Nord Kivu saluent le programme de radio Kapi Butembo, mais ils recommandent un élargissement de ce dernier en vue de lui permettre le traitement de tous les problèmes de la société locale. Je vous propose d'écouter tour à tour quelques habitants abordés par Grévis Salomon.
Nous encourageons les programmes qui est diffusé chaque jour localement. Vous nous diffusez des informations à la langue locale.
Avec les temps très courts, on ne sait pas vraiment avoir toutes les précisions pour ce qui se passe à Butembo et ailleurs. Moi, je proposerai à la radio Okapi d'augmenter le moment pour suivre les informations. Nous voulons qu'il y ait un programme un peu élargi pour permettre aux auditeurs de suivre même d'autres événements.
Vous aurez à comprendre que la radio Okapi est implantée dans une zone où il y a plus de sécurité et qui est dit à la non-occupation de cette jeunesse. Alors lorsque la radio Okapi tend son micro vers les initiatives des jeunes, c'est vraiment plus que nous retrouvons vers la promotion des différentes activités entrepreneuriales.
Ça vient répondre aux besoins de la population où on nous balance des informations et des fois même en langue locale, ce qui nous a impressionné parce qu'on savait que la radio Okapi c'est au niveau seulement de la capitale.
Au programme qui se passe toujours à la radio Okapi, de ne pas oublier les artistes de la ville, parce que localement, nous avons aussi besoin de nous faire attendre partout.
Actualité internationale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, alarmée du rythme jugé très préoccupant de transmission du Covid-19 en Europe. Selon cette agence onusienne, la semaine dernière, près de 60% des nouveaux cas et près de 50% des nouveaux décès ont été enregistrés sur le continent européen. C'est un brusque rappel à la réalité alors que certains pays ont assoupli leurs mesures sanitaires et que le monde vient de dépasser le cap de 5 millions de morts, indique l'OMS. À lui seul, l'Europe enregistre plus d'1,4 million de décès. C'est Le secrétaire général de l'ONU s'est entretenu hier par téléphone avec le chef de l'armée soudanaise. Antonio Guterres a exhorté le général Abdel Fattah al-Burhan à restaurer le gouvernement civil de transition plus d'une semaine après le coup d'État. Il a appelé à la libération des dirigeants civils arrêtés, notamment le premier ministre Abdallah Hamdok, en résidence surveillée depuis le putsch. Peu après le communiqué de l'ONU, le général a ordonné la libération de 4 ministres soudanais d'après la télévision d'État, mais aucune date pour leur libération effective n'a été précisée.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. Une association de défense de l'environnement réclame la mise en place d'un Conseil national de l'environnement et développement durable, la SPAFECO, entendez, survie de la planète grâce aux forêts et eaux du Congo. C'est ainsi adressé au Premier ministre sur cette question. Le Conseil national de l'environnement est un organe prévu par la loi du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Maître Christian Namuto, coordonnateur de cet organisation et notre invité, il explique sa démarche au micro de Emmanuel Elameji Wakabedi.
Maître Christian Namuto, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Au nom de votre organisation, le SPAFECO, vous vous adressez au Premier ministre chef du gouvernement congolais. Sur quoi porte votre correspondance?
La SPAFECO a relevé que dans la loi de 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, il y a l'article 17 qui prévoit que le gouvernement puisse mettre en place le Conseil national de l'environnement et du développement durable. De 2011, depuis la mise en la promulgation de cette loi jusqu'à aujourd'hui, ce conseil n'existe pas. La SPAFECO voudrait voir le gouvernement mettre en place le Conseil national de l'environnement et du développement durable.
Pourquoi, principalement, qu'est-ce qui fait que si ce conseil n'existe pas, il y a des choses qui ne sont pas faites?
Effectivement, monsieur le journaliste, ce conseil est un organe ultra technique, un organe dont la mission essentielle est de donner des avis sur la politique nationale de l'environnement. Et donc, à ce jour, les avis techniques qui devaient être donnés sur la politique nationale de l'environnement ne sont donnés par aucun autre organe.
Donc vous dites, tant que cet organe n'existe pas, donc c'est comme s'il n'existe pas au pays, alors une politique de l'environnement?
Au pays n'existe pas de politique de l'environnement, parce que comment existerait cette politique alors que l'organe technique censé donner des avis techniques sur cette politique n'existe pas lui-même. Techniquement, sur papier, cette politique n'existe pas.
Alors, vous vous adressez au Premier ministre chef du gouvernement. Est-ce que c'est lui directement qui doit mettre en place ces conseils de l'environnement ou il y a une procédure aussi à suivre, ce qui bloquerait peut-être jusqu'à ce jour?
Il n'y a pas de procédure à suivre. C'est le Premier ministre qui est la personne attitrée pour mettre en place ces conseils. C'est prévu à l'article 17 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Et donc, cette disposition lui donne compétence de mettre en place ces conseils par un simple décret discuté en Conseil des ministres.
Alors, pourquoi vous vous acharnez sur cette question de l'environnement, Conseil national de l'environnement, Maître Christian, au moment où on est en train de terminer les discussions sur la COP26 en Écosse?
Oui, il y a les discussions sur les changements climatiques, mais c'est cet organe ici, au vu de ces conseils techniques, qui doit nous aider, nous aussi, à donner notre contribution. En principe, par dotation divine, c'est la RDC qui est pays solution, parce que nous sommes dotés de ce que les autres pays n'ont pas. Nous sommes pays solution naturellement, mais techniquement non, parce que jusqu'à présent, nous ne faisons pas ce qui devait être fait. Je vous dis, monsieur le journaliste, la même loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement a voulu que, pour sa mise en œuvre, le Premier ministre prenne une série de décrets. Environ une vingtaine de décrets. Mais aujourd'hui, à notre connaissance, il y a une dizaine de décrets qui devraient faciliter la mise en œuvre de cette loi qui n'ont jamais été pris par le Premier ministre. Alors, comment saurons-nous être un pays solution? Parce que cette loi n'est pas mise en œuvre.
Donc, la mise en place du Conseil national de l'environnement viendrait résoudre deux questions? sur la politique nationale même de l'environnement.
Effectivement, monsieur le journaliste, la mise en place de ces conseils devra nous faciliter et permettre de manière technique à ce que nous ayons une politique nationale claire sur les matières relatives à l'environnement. Ce même conseil devra donner des avis techniques sur tout projet, programme, plan ayant trait à l'environnement.
Comment vous comptez aboutir avec votre démarche et obtenir la mise en place de ce que vous réclamez?
Nous pensons que le premier ministre que nous avons aujourd'hui, c'est un premier ministre technocrate, pas bureaucrate seulement. C'est juste un rappel, parce que c'est dans ses attributions, c'est à lui que la loi donne compétence pour mettre ce conseil national en place. C'est par décret que ce conseil devra naître, pas par arrêté ministériel.
Maître Christian Amouto, merci.
Le coordonnateur de SPAFECO, survie de la planète grâce aux forêts et aux eaux du Congo, était avec Emmanuel Elameji Ouakabidi. C'est la fin de ce journal supervisé par Peleki Pelamondo, mise en onde de Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis.